session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 1er juillet 1991.
Après avoir montré rapidement, on y reviendra, comment la recherche philosophique aboutit normalement. Et là, c'est très rare de fait, c'est très rare, mais quand même, elle peut aboutir. Et chez certains, elle aboutit à découvrir le problème de l'être premier, le problème de celui qui ne peut être qu'une personne, l'amour, l'intelligence. Il y a l'autre aspect, et c'est ça que je voudrais ce soir regarder avec vous. La religion, on l'atteint par les traditions religieuses. Puisqu'il y a les deux, philosophie et religion. Je ne vais pas prendre ici toutes les traditions religieuses données par Hésiode. Ce serait très intéressant. Mais un peu difficile à donner rapidement. Théogonie, vous voyez, le nom signifie quelque chose de très significatif, c'est-à-dire la genèse des dieux. Comment ordonner l'Olympe de tous les dieux de tradition religieuse? Ils sont nombreux. Zeus, le dieu des dieux. Zeus, le dieu suprême. Mais il n'y en a pas que celui-là, il y a des quantités d'autres. Alors, Hésiode, qui n'est pas saint Hésiode, Hésiode cherche à ordonner cette quantité des dieux. C'est très curieux. C'est un livre assez extraordinaire qui a intéressé énormément les historiens de la religion. Je crois que c'est un des livres les plus intéressants pour ça, par tous les grands courants. Alors Hésiode ramène tout à trois principes. C'est la trinité d'Hésiode. Il y a l'abîme. L'abîme. Tout sort de l'abîme. Puis il y a la terre. Et puis il y a l'amour. C'est assez curieux, vous voyez. Vous n'auriez pas dit ça, moi non plus. L'abîme, la terre. On comprend la stabilité. Vous voyez, les deux contraires presque. L'abîme, il n'y a pas de fond. La terre, on touche le sol. Stabilité, et puis l'amour. Et à partir de là, il prend les générations successives. Alors, je ne vous les donne pas, parce que c'est pas... Si vous avez un cours d'histoire de la religion, on le ferait. C'est pour vous montrer qu'on est quand même en présence là d'une tradition religieuse extraordinairement riche. Les traditions religieuses sont très, très anciennes. Et Hésiode, c'est pas tellement ancien, puisque Hésiode, c'est 8 siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est pas tellement ancien. Il y a 3 siècles de cela. Mais c'est pas grand-chose. Hein. À peu près, quoi, 3 siècles. Quand on trouve Hésiode au ciel, c'est un paysan, Hésiode. Il y a la théogonie, c'est du reste très connu, parce que c'est le point de départ de toute la philosophie grecque. Hésiode, il parle donc de l'origine de tous les dieux, et il parle des travaux et des jours, puisque c'est un paysan. Il a des bœufs, de très bons bœufs, et puis il a une épouse. Et c'est lui qui fait le parallèle, c'est pas moi qui le fais. Parce qu'il dit, et il dit, il donne des conseils, parce qu'il n'est pas heureux au ménage. Ça se voit. Et quand tu te maries, et une paire de bœufs, et choisis une épouse, qui ne soit surtout pas le frelon de la ruche. On voit très bien ce qu'il veut dire. Le frelon de la ruche, c'est celle qui fait beaucoup de bruit, qui dépense tout, et qui ne fait rien. Alors on voit très bien le paysan malheureux. Et sa paire de bœufs, il la met avant. Ça, c'est sa richesse. Tu vois. Et puis en même temps, ce regard sur les divinités. Bon. C'est intéressant parce que c'est un témoignage ancien. C'est la première philosophie de la famille. C'est net. Et la première philosophie du travail. Alors, je ne m'attarde pas à ça. Je prends quelque chose que nous connaissons beaucoup mieux, notre Bible. Il y a deux façons de lire la Bible. Il y a une façon chrétienne ou juive. Les juifs lisent l'Ancien Testament, surtout la Torah. Les chrétiens lisent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et les chrétiens lisent l'Ancien Testament dans la lumière du Nouveau Testament. Et en lisant la Bible, ils font progressivement une sorte de théologie biblique pour voir comment Dieu s'est révélé progressivement. Tout de suite, on montre que l'homme crée à l'image de Dieu et relié à Dieu. Et on nous montre d'une manière très belle, si on a le temps, on regardera ça un peu, l'homme religieux. C'est quand même quelque chose de très net. Je peux lire aussi la Bible en philosophe. J'ai un ami qui ne croit plus, qui fait de la philosophie. C'est un philosophe, c'est un penseur. Il s'est mis évidemment avec des traditions de l'Inde, du Japon, d'un grand spécialiste de la méditation transcendantale, tu te sais, grand spécialiste. Parce qu'il y a des degrés là-dedans. Il fait des sessions sur la méditation transcendantale, tu te sais. Je n'ai pas invité cette fois-ci. Pour nous faire montrer ce que c'est que la méditation transcendantale, tu sais. N'y touchez pas trop, hein, parce que c'est pas comme à d'en sortir, toi, qu'on est en train de. Et cet ami lit l'écriture en philosophe. Il me dit toujours, c'est le livre le plus merveilleux qui existait au plan philosophique. C'est vrai, j'en suis sûr. C'est le livre le plus merveilleux qui existait au plan philosophique. Alors, si vous voulez, ce soir, regardons un tout petit peu qu'est-ce que ça représente comme tradition religieuse. Puisque nous avons, au fond, deux moyens d'atteindre l'homme religieux. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'homme religieux que la religion. Vous comprenez bien. Le philosophe s'intéresse à l'homme. Et donc il s'intéresse à l'homme religieux. Pour savoir ce que c'est que l'homme religieux, j'ai une manière très simple, mais intéressante, de lire la Bible qui me décrit ce que c'est que l'homme religieux. Si j'avais le temps, j'aimerais beaucoup faire ça. Lire en philosophe la Bible. Je connais à la Sorbonne une juive qui croit. Elle est pieuse même. Elle pratique sa religion. Qui enseigne la philo. Et qui constamment prend au point de vue philosophique, on le sait, la Bible comme référence, qui, à travers la Bible, donne une anthropologie. C'est sympathique, tu vois, c'est intéressant. Maintenant, elle est beaucoup plus en Israël qu'à Paris. Elle était à Paris. Elle est à Jérusalem. Où elle continue d'une autre manière, mais sa philosophie a essayé de voir qu'est-ce que c'est que la fidélité, qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est que le mariage, qu'est-ce que c'est, selon l'écriture, d'un point de vue religieux. Parce que c'est évident que c'est une grande tradition religieuse. Je crois qu'on peut dire que c'est la plus grande tradition religieuse, au moins une des plus grandes. Pour l'Occident, c'est la grande tradition religieuse. Il y a d'autres traditions religieuses, bouddhistes, évidemment, qui sont aussi intéressantes à comprendre ce que c'est que l'homme. Et peut-être moins religieux. Alors, si je prends l'écriture, un domaine que vous connaissez tous quand même, un des livres qui m'intéresse particulièrement comme tradition religieuse, c'est évidemment la Genèse. Et vous comprenez pourquoi? Parce que ça montre tout de suite l'homme en dépendance de Dieu, l'univers en dépendance de Dieu. Donc, je le lis en respectant ce texte des Vénérables. Il est très intéressant. Quelle date exactement, c'est pas en discute. Bon, je crois que les traditions qui sont rapportées là sont très anciennes. Mais ça a été écrit, on croit, telle date, 600 ans avant Jésus-Christ, 500 ans, ça varie. Hein. Et puis selon des traditions différentes, une tradition yaviste, une tradition éloïste, de fait, c'est vrai, mais ce sont des traditions très anciennes. Le langage est mythique. Pour le philosophe, vous comprenez, pour le philosophe, pour le chrétien, pour le croyant, c'est un livre sacré. Donc, même si le langage est mythique, ça dit des faits précis qui ont existé. Parce que c'est un mythe révélé. Donc, il exprime une vérité. C'est un langage symbolique. Vous savez la différence entre le symbole et le mythe. Tout mythe a un langage symbolique, mais tout symbole n'est pas un mythe. Le mythe, c'est un langage symbolique qui raconte le récit de l'homme, son apparition sur la terre, ses fautes, ce vers quoi il tend. Point de vue purement philosophique, l'Apocalypse a un langage symbolique et mythique. C'est sûr. On nous raconte la fin, la Jérusalem céleste. point de vue, j'allais dire, philosophique, la Genèse et l'Apocalypse, ce sont des très grands livres. C'est plus intéressant de lire la Genèse que de lire Hésiode, point de vue purement philosophique. C'est plus intéressant. Et je crois que la Genèse représente des traditions encore plus primitives, plus anciennes. C'est pas ce qu'il y a de plus primitif, paraît-il. Vous savez bien, ce qu'il y a de plus primitif, c'est les traditions religieuses colombiennes. On dit des choses étonnantes. Et bien, dans la tradition religieuse de la Genèse, je ne dis pas ce qui est étonnant, voyez. On nous montre tout de suite, c'est intéressant parce que ça fait comprendre sur quoi reposent ces traditions religieuses. Tout de suite, le mystère de la création. Quoi qu'il ne peut pas y avoir de tradition religieuse sans qu'on parle du commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alors, ce premier récit de la création est très étonnant parce qu'il suit un ordre assez logique. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Vous trouvez le septième jour. Vous trouvez sept, comme dans l'Apocalypse, sept. C'est très symbolique, sept. C'est un chiffre très, très mystérieux. Et là, c'est ponctué comme une semaine. Évidemment, c'est une semaine d'une dimension assez particulière. Je crois que c'est pas du tout une semaine comme la nôtre. La montre n'étant pas encore inventée, n'est-ce pas ? Alors, on voit très bien que ça peut être très vaste. Mais c'est intéressant parce que c'est l'ordre dans le temps. Or, l'ordre dans le temps, je crois que c'est l'ordre le plus primitif. C'est plus primitif dans notre psychologie, l'ordre dans le temps, que l'ordre dans les lieux. Et cet ordre, il est progressif. C'est qu'on ne voit pas l'apparition de l'homme et de la femme tout de suite. On le voit qu'au sixième jour. Vous allez voir, on va ponctuer ça pour essayer de se faire une petite idée de ce que représente cet ordre, cette tradition religieuse de la création. Et la terre était un chaos. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Voyez, on retrouve l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. On ne dit pas d'où viennent les eaux, ça c'est tout à fait mythique, voyez. Voyez, on dit mythique, un récit mythique, quand il n'y a pas d'ordre logique. On est devant un ordre qui n'est pas logique. Tout d'un coup comme ça. Et on verra tout à l'heure aussi, quand on voit la création de l'homme et de la femme, et puis on voit le serpent. D'où ça vient ? Ben évidemment, il y a les animaux, mais ce serpent, il est un serpent savant qui parle. C'est très mythique, ça. Ça fait partie de ces archétypes, comme disait Jung, qu'on porte tous en nous. Un des archétypes très, très profonds, c'est le serpent. Et je connais quelqu'un, dès qu'on prononce le mot serpent, mais immédiatement, elle entre presque en crise, alors qu'elle est très normale. Tellement il y a des mots clés comme ça qui vous secouent profondément. C'est très très curieux. Et c'est intéressant. Ça a été toute la recherche de Jung, les archétypes. Des archétypes religieux. Et Jung nous reconnaît, c'est des archétypes religieux. C'est pas n'importe quel archétype. Le bien et le mal, tout de suite au point de vue éthique et puis au point de vue religieux. Alors, il y a de quoi fonder des archétypes très forts là-dessus. Voyez donc, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la terre était un chaos. Donc, il a créé ce chaos. Et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit ciel et la terre. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara les ténèbres et la lumière des ténèbres. Alors ce qui est très intéressant ici, ce qu'il faut relever, c'est ces divisions. C'est aussi un langage religieux très proche du mythe symbolique. On voit les séparations. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres. La lumière est bonne et les ténèbres, c'est la nuit, c'est mauvais. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Premier jour, c'est le jour de la séparation de la lumière et des ténèbres. C'est donc une division très, très fondamentale dans l'ordre de la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est raconté selon ce langage-là. Pour celui qui le raconte, pour un croyant, ça correspond à quelque chose. Je n'ai pas le droit d'effacer ça d'un trait. Pour un philosophe, langage symbolique, lumière et ténèbres. La lumière du jour, la lumière, le jour et les ténèbres. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et en fut ainsi. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Deuxième division, c'est dans les eaux. C'est l'eau. Les eaux qui sont au-dessus. Parce que de temps en temps, vous recevez la douche. C'est évident. Donc ça tombe d'en haut, quoi. Ces orages rapides sur les autres fautes. Quand t'es au tropique, ça vous tombe comme ça, rapidement, à toute vitesse. On a eu un petit peu des trucs comme ça ici. Mais quand on voit le nuage monter, est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir? Imaginez, deuxième division, c'est dans l'eau. Il ne dit pas une eau chaude, une eau froide, mais une eau d'en haut et une eau d'en bas. Dieu appela le firmament ciel. Il eut un soir, il eut un matin, deuxième jour. Donc, deuxième division. Mais, curieux. Dieu dit que les eaux de dessus le ciel s'amassent en un seul lieu et qu'apparaissent ce qui est sec. Il en fut ainsi. Ce qui était sec, Dieu l'appela terre. Il amena des eaux, il l'appela mer. Dieu vit que cela était bon. Après, division du sec et du humide. Oui, des divisions tout à fait fondamentales, très curieuses. Et il les prend, parlant, il ponctue. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise la verdure. Alors, apparaît la vie, la verdure, de l'herbe portant semences, des arbres fruitiers donnant selon leur espèce des fruits qui ont en eux leurs semences. Sur la terre. Il en fut ainsi. Et la terre fit sortir de la verdure, de l'herbe portant semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, qui ont en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Alors là, l'apparition sur la terre, ça partait. Alors c'est très curieux, la vie apparaît d'abord sur la terre. Alors qu'on dit toujours que la vie apparaît d'abord sur la mer. Il y a là quelque chose de très spécial. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signes pour les époques, les jours, les années. Alors tout l'ordre du ciel, des Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Bon, la suite, hein. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'aspect de l'homme religieux. Dieu dit, donc après le cinquième jour, Dieu dit que la terre fasse sortir des êtres vivants selon leur espèce. Bestiaux, reptiles, bêtes sauvages selon leur espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Tu vis que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toutes les bêtes sauvages et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de toute la terre et tout arbre qui en lui fruit, qui en lui fruit d'arbre portant semence. Cela vous servira de nourriture. Et à toute bête sauvage, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui rampe sur la terre et qui en lui âme vivante, je donne toute herbe verte en nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Reçu de Dieu ce don de dominer sur tous les animaux. Quand vous êtes ennuyé la nuit, fait partie, voyez, de l'homme religieux, ça. C'est très, très curieux aussi. Je regarde ça. On essaiera de comprendre. Hein. Ces traditions religieuses, je lis ça comme une tradition religieuse qui me montre l'homme dans cette dimension. Ça a servi pendant des temps et des temps.
Qui dit ça, comment voulez-vous?
terre, mais il n'y a pas de pluie. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Yahvé Dieu façonna l'homme. Poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. Et on parle de l'homme avant d'être un être vivant. C'est une excellente logique. D'habitude, on a parlé d'être vivant, puis l'homme au terme. Là, c'est l'homme. Et grâce à l'âme, il devient un être vivant. C'est un illogisme merveilleux. Ça indique bien un récit très mythique. Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme. Je sais pas où il était avant, ça fait rien. Et il était sur la terre où il n'y avait rien du tout. L'homme ne peut pas rester sans avoir un petit jardin vert. Poisson rouge, alors Dieu va créer, il planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Yahvé Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres désirables à voir et bons à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se diviser pour former quatre bras. Le nom du premier est Pishon. C'est lui qui contourne tout le pays d'Abil, où il y a l'or, et l'or de ce pays est bon. Là où se trouve le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guéon. C'est lui qui contourne tout le pays de Couche. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Yahvé Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et Yahvé Dieu donna cet ordre à l'homme: de tous les arbres du jardin, tu peux manger. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. L'ordre est donné à Adam. Yahvé Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit assortie. Yahvé Dieu façonna du sol toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à l'homme pour voir comment il s'appellerait. Vous voyez la délicatesse de Dieu. Il connaît tout, mais il veut que l'homme les nomme. Donc il n'achève pas l'univers. Il laisse l'homme l'achever. Il le laisse passer devant pour qu'il les nomme. Le nom que l'homme donnerait à tout être vivant serait son nom. L'homme appela de leur nom tous les bestiaux, les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fut assortie. Il y a un manque. Il y a un grand manque. Il y a deux manques. Les animaux n'ont pas de nom. Et puis l'homme n'a pas d'aide. N'a pas un aide assorti à l'homme. À l'homme. Alors, Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Yahvé Dieu bâtit en femme la côte qu'il avait prise de l'homme et l'avena c'est d'un homme qu'elle a été prise. Enfin, c'est le bien jeu de mots en hébreu, Ishifa, qui montre l'homme et la femme, n'est-ce pas? Qui, évidemment, en français, c'est pas traduit, ça. Ça ne peut pas se traduire. C'est très curieux, du reste, hein, parce qu'on voit que l'hébreu touche tout de suite à un aspect religieux. Une langue religieuse. On ne peut pas dire que le français est une langue religieuse. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et n'avaient pas de honte. Vous voyez, alors, on voit des deux côtés, selon les deux récits, la création de l'homme, la création de la femme est totalement différente. Alors pourquoi ces deux récits? Point de vue philosophie religieuse. Pourquoi ces deux récits? Montrer que la création est parfaitement ordonnée et que le chef-d'œuvre de Dieu, c'est l'homme et la femme. Second récit, la création relève de l'amour. Alors il y a la précipitation de Dieu qui fait tout de suite celui qui l'intéresse en premier lieu, l'homme. Et tout le reste est fait pour lui. Vous voyez, c'est l'autre mouvement. Mais des deux côtés, l'homme est roi de la création. Ça, c'est net. Chef d'œuvre au terme, et c'est à partir de lui que tout le reste se fait. Et selon le second récit, Dieu semble avoir oublié la femme. Il a créé l'homme, il semble oublier la femme. Et l'homme s'ennuie, il n'a pas d'aide. Il n'a personne à qui il peut parler. Et Dieu alors, à ce moment-là, sans lui demander conseil, il le met dans une torpeur. Et on voit le geste de Dieu chirurgien. Oui, le geste du potier et le geste du chirurgien. L'homme est lié au geste du potier et la femme est liée au geste du chirurgien. Il y a deux symbolismes différents. Alors pourquoi ça? Pour nous faire comprendre qu'il y a un regard de Dieu différent sur l'homme et un regard de Dieu différent sur la femme. Ça ne veut pas dire que l'âme de l'homme et l'âme de la femme sont différentes. Non. Il y a une complémentarité. Os de mes os, chair de ma chair. Et ceci dans le regard de Dieu, puisque c'est Dieu qui présente la femme à l'homme. Ça, c'est aussi très religieux, vous voyez. Donc, tout de suite, le couple est vu dans la lumière religieuse de la dépendance à l'égard de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui les unit? Un amour. Il y a un amour radical, foncier, qui vient de Dieu. Alors tout de suite, on a une petite explication morale qui montre bien l'aspect du mythe. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. Oui, pas tout à fait la même chose qu'Hésiode. Pas tout à fait la même chose. Le mariage est tout de suite présenté sous l'aspect religieux. Pour accomplir la volonté de Dieu. C'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Et alors, constatation morale encore très curieuse. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, ils n'avaient pas de honte. Pour montrer le regard limpide, pur de l'homme et de la femme, ils se regardent comme créatures de Dieu. Ils se regardent comme donnés l'un à l'autre, mais comme créatures de Dieu. Et donc il y a toute une vision religieuse de l'homme et de la femme dans la dépendance du Créateur. ni la tête ni les pieds. C'est pour montrer quelle est l'aide et la complémentarité du côté du cœur. Et saint Augustin fera le parallélisme avec le mystère de la croix. Le coup de lance. La torpeur du Christ sur la croix, sa grande extase. Il n'est plus présent sur la terre. Il est tout entier tourné vers le Père. Et alors il y a la blessure du cœur, et à partir de là, l'Église naît. La femme, c'est l'Église. Vous voyez, langage symbolique qui peut se comprendre de diverses manières, c'est sûr. Alors ce qui m'intéresse aussi ici, c'est que la première chose qu'on montre au plan religieux, ce n'est pas l'adoration. C'est la désobéissance. Ah, on pourrait dire qu'il y a un premier acte d'Adam qui est de recevoir son épouse. L'homme dit, celle-ci, cette fois, est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme. C'est Adam qui la nomme. Isha. Car c'est d'un homme qu'elle a été prise, celle-ci, d'Adam. Alors, le premier acte de l'homme, c'est de recevoir son épouse, de l'aimer. Et la première activité de la femme, on la voit, c'est qu'elle se laisse tenter par le serpent. Alors, c'est aussi très intéressant de voir que la faute, le péché d'orgueil, apparaît dans ce climat religieux. Parce qu'il y avait un ordre que Dieu leur avait donné. Il y avait un ordre de ne pas toucher à cet arbre. Vous connaissez suffisamment ce récit, tout à fait primitif, là encore, très mythique. Le serpent était la plus rusée de toutes les bêtes des champs que Yahvé avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est très intéressant cette première tentation, parce qu'on voit que le démon n'invente rien, mais enlève l'ordre voulu par Dieu. Le propre du démon, c'est toujours de faire la pagaille. Désordonner tout, de désorganiser tout. Il est curieux. Alors Dieu dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. Il sait bien que ce qu'il y a de plus vulnérable dans le cœur de la femme, c'est d'obéir à l'autorité de l'homme. Ce qui monte, vous voyez, tu as donné un ordre à Adam, pas à Ève. Alors, est-ce qu'Ève est jalouse de ça? Il s'est servi de l'homme comme d'un médiateur. Et la femme, au point de départ, est très nette. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Puis du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se désireront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. croyez que la tentation porte sur le primat de l'intelligence. Au-delà de l'obéissance, le primat de l'obéissance. L'obéissance est un acte de volonté, un acte de soumission volontaire. Le démon ne peut pas accepter l'obéissance. Il veut détourner Ève et l'empêcher d'obéir. Là, c'est très net, c'est une attitude d'opposition vis-à-vis de Dieu qui se fait à travers le serpent. Et on montre tout de suite que le premier péché, Ève ne l'a pas fait seule. Elle l'a fait en écoutant le serpent. Si elle avait refusé d'écouter le serpent, elle resterait fidèle. Mais elle a refusé d'écouter le serpent. Elle s'est laissée prendre. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'intelligence. Elle prit de son fruit et mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il mangea. Alors s'ouvrirent leurs yeux à tous deux. Ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des bagnes. Alors évidemment, il y a tout ce côté-là, vous voyez, de nous faire comprendre pourquoi telle ou telle chose. Un souci religieux de fonder tout sur l'ordre de Dieu ou la désobéissance. Pourquoi les habits? Pourquoi l'homme a dit ah, c'est à cause, conséquence du péché. Éviter la concupiscence. C'est net. Et ils connurent qu'ils étaient nus, et cousant des feuilles de figuier, ils se firent des bagnes. Ils entendirent le bruit des pas d'Yahvé, Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. Ils se cachèrent, l'homme et sa femme, de devant Yahvé Dieu, parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Il dit, j'ai entendu le bruit de tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Oui, excellente excuse. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? L'homme dit, c'est la femme que tu as placée près de moi qui m'a donné de l'arbre. Et j'ai mangé. Et il y avait Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme dit, c'est le serpent qui m'a dupé et j'ai mangé. Voyez la conséquence de la faute, c'est d'être incapable de porter une responsabilité. Tout de suite, on accuse l'autre. C'est toujours l'autre. C'est la conséquence immédiate. Mais c'est toujours dans un climat religieux. Hein. C'est le dialogue de l'homme et de Dieu, ou de Dieu et de l'homme. Mais on montre que le péché fait une rupture. Dieu n'est plus un ami. Dieu devient l'autorité qu'on a bafouée. Alors, on a peur. Le péché engendre immédiatement cette peur de rencontrer Dieu. Donc le péché fait renverser